Pour la prédication d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un texte qui m'a beaucoup travaillé personnellement ces dernières semaines, en bien, je vous rassure, ça m'a fait énormément de bien, et en fait ça tombe très bien pour moi de pouvoir le prêcher pendant les vacances. Et je vous explique un peu pourquoi. Perso, souvent, en période de vacances, mon rythme change beaucoup. Que je sois ou pas en vacances, mon rythme de travail n'est pas le même. C'est déjà pas toujours simple d'avoir un rythme à peu près régulier en temps normal dans l'année. Pendant les vacances, ça devient franchement compliqué. Le rythme change, les occupations changent, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et je vous avoue que dès que moi, j'ai un rythme différent, une des premières choses qui devient compliquée pour moi, c'est de continuer à prendre régulièrement un temps pour lire la Bible ou pour prier, bref, passer un moment tout seul avec le Seigneur. Et ça m'est à nouveau arrivé encore pendant le mois de janvier. Mon rythme a totalement changé avec tous les événements œcuméniques, tout ce qui concernait le festival de la bande dessinée chrétienne, toutes ces choses qui étaient très bonnes, mais mon rythme n'avait plus rien à voir avec ce que je faisais habituellement dans l'église. Et c'est devenu à nouveau compliqué de passer du temps quotidiennement avec le Seigneur. Depuis, ça va mieux, vous inquiétez pas, le rythme est redevenu à peu près normal, on va dire. Et le Seigneur pardonne, effectivement. Et il y a 3 semaines de ça, en fait, j'ai médité un texte qui m'a vraiment éclairé, encouragé, rassuré et motivé énormément. Ce texte se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 25 à 35. Mais juste avant de vous lire ce texte, j'aimerais vous dire un peu grosso modo de quoi il parle. D'habitude, j'en parle après l'avoir lu, là j'en parle avant. Paul voit que dans l'église de la ville de Corinthe, eh bien, les chrétiens ont visiblement du mal à être vraiment attachés à Dieu. Au lieu de se concentrer sur Dieu, sur sa volonté, sur leur relation à lui, leur relation entre frères et sœurs en Christ, ils se perdent dans plein de questions secondaires. Ils se disputent même. Ils se disputent pour savoir ce qu'il faut manger ou non. Est-ce qu'il faut se marier ou pas ? Qui est le meilleur prédicateur? Quel rôle dans l'église est le plus prestigieux? Bref, ils se prennent la tête sur tout un tas de sujets, mais Paul veut leur faire réaliser qu'ils sont en train de passer à côté de ce qui est l'essentiel. Alors dans un texte où il répond justement à leurs questions au sujet de « est-ce qu'il faut se marier ou rester célibataire ?» Les Corinthiens se posaient cette question. Eh bien, pendant qu'il leur répond, il va prendre le temps de les recentrer sur ce qui est le plus important. Et je vous lis donc maintenant les versets 25 à 35 du chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Je lis dans la version Summer. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur, mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de leur présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur, son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme, et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Ce texte, je le trouve super intéressant parce que là, Paul, en fait, n'est pas en train d'enseigner. Il le dit, pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur, mais je leur donne mon avis. Est-ce que vous devez épouser quelqu'un ou rester célibataire? Ce n'est pas la Bible qui vous le dira. Paul ne peut pas enseigner sur cette question. Mais alors qu'il se refuse à trancher la question, Paul va ouvrir son cœur pour exprimer à ses lecteurs, à ses chrétiens de l'église de Corinthe, tout le souci qu'il a à leur sujet. Paul vit au quotidien au service de Dieu. Ça lui apporte énormément de joie, hein. Il voit beaucoup de personnes croire en Jésus, il voit des personnes donner leur vie à Christ, il voit des églises naître, grandir, mais il connaît aussi toutes les luttes, les difficultés, les oppositions qui rendent difficile de rester attaché au Seigneur. Et son but premier dans ce texte, ce n'est pas de dire à ses lecteurs s'ils doivent se marier ou rester célibataires, mais le centre de son message, c'est le verset 35. « Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. » Les Corinthiens voulaient savoir ce qui était permis ou non par le Seigneur. Eh bien, Paul leur propose une façon différente d'envisager leur vie et leur choix de vie. Qu'est-ce qui vous aidera à rester attaché au Seigneur sans partage? Parce que Paul nous le rappelle, tout ce qui a du prix à nos yeux dans ce monde finira par disparaître. La seule chose qui restera sera notre attachement au Seigneur. C'est donc notre attachement à Dieu qui doit guider toutes nos réflexions et tous nos choix de vie. Qu'est-ce qui vous aidera à rester attaché au Seigneur sans partage? Et cette simple question, moi je trouve qu'elle change tout. Est-ce que je dois me marier ou rester célibataire? Mauvaise question. Mais à la place, est-ce que vivre avec cette personne sera pour moi un encouragement ou un obstacle à une vie consacrée à Dieu? Est-ce que je dois accepter ce boulot? Mauvaise question. Mais à la place, est-ce que je pourrais vivre ce travail avec Dieu à la première place de ma vie? Où est-ce que mon job viendra concurrencer ma relation à Dieu? Est-ce que ce loisir est autorisé ou non pour un chrétien? Mauvaise question. Mais à la place, est-ce que je pourrais jouir de ce loisir avec reconnaissance envers Dieu et dans une vie équilibrée qui lui soit consacrée? Ou est-ce que ce loisir va venir concurrencer en partie ma relation à Dieu? Paul nous l'affirme dans ce texte, les temps sont difficiles pour les croyants. C'était le cas à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Croire en Dieu au milieu d'un monde qui rejette le Seigneur. Vivre en décalage de la pensée et des habitudes de ce monde, mais ne pas se couper du monde non plus, le but n'est pas de finir dans un monastère. Au contraire, parce que nous devons être dans ce monde des témoins de la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Le challenge est très compliqué. Tenir bon dans un monde pareil est déjà difficile en soi. Alors Paul nous supplie de ne pas nous compliquer la vie outre mesure. Lorsqu'il nous dit au verset 32, « C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. » Dans ce monde, dans notre vie, dans notre entourage et même dans notre cœur, il y a tout un tas de choses qui cherchent à prendre la place que seul Dieu doit avoir dans notre vie. Alors ne cherchons pas à en rajouter, mais ayons un peu de sagesse. Simplifions-nous la vie. Recherchons avant tout ce qui nous encourage à rester attachés au Seigneur sans partage. Et pour le reste, eh bien, faisons le tri entre ce que nous pouvons effectivement vivre en restant consacrés à Dieu, avec les forces qu'il nous donne, et ce qui serait peut-être dangereux pour nous et notre relation à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous invite à faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première, en nous affirmant dans ce passage que toutes nos autres questions doivent se poser dans ce cadre, avec la foi dans ce que Dieu peut pourvoir à toute chose dans notre vie. Faire du règne de Dieu dans notre vie notre préoccupation première. Ça revient à être attaché au Seigneur sans partage. Et à ce sujet, j'aimerais vous partager trois exemples. Des exemples de vie à des niveaux de gravité différents, pour comprendre comment ce message peut nous rejoindre peut-être en toutes circonstances. Ces trois exemples viennent de trois personnes que je connais bien, assez bien. Le premier exemple vient d'une personne que je connais très bien, c'est moi-même. Hein, ça vient de ma vie. C'est mon rapport au bien matériel en général, à l'argent en particulier. J'ai jamais eu beaucoup d'argent, sans jamais manquer de rien non plus. Mais j'étais quand même gêné, j'avoue, dans ma vie, quand je voyais dans la parole de Dieu que le Seigneur me demandait de lui consacrer toute ma vie, même au niveau de cet argent que j'avais en petite quantité. J'étais gêné, notamment quand je tombais sur des passages qui parlaient de la dîme. Alors, la dîme, pour vous faire court, en gros, la dîme, c'est Dieu qui nous dit que 100% de ce que nous pouvons avoir entre les mains lui appartient. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne un travail, c'est lui qui nous donne la force d'accomplir ce travail. Et la Bible nous dit même que c'est Dieu qui nous donne la force de rechercher, de désirer la prospérité matérielle. Donc, au final, même mon salaire ne vient pas vraiment de moi. C'est Dieu qui me le donne. Voilà ce que nous dit la Bible. 100% de ce que j'ai entre les mains appartiennent à Dieu. Mais, dans son amour immense, il m'offre 90% de ce qui est à lui. Il n'en garde que 10% pour lui-même. Avec mon salaire, le fruit de mon travail, il me place 100% de ce qui lui appartient entre les mains. À moi de reconnaître que tout est à lui, de recevoir avec reconnaissance, gratitude, joie les 90% qu'il m'offre, et à moi d'accepter de lui rendre les 10% qu'il décide de se garder pour lui. La dîme, c'est rendre et non pas donner, on ne peut donner que ce qui est à soi. La dîme, c'est rendre 10% du fruit de notre travail à Dieu, parce que nous comprenons qu'ils ne sont pas à nous, mais qu'ils sont à lui. Et accepter de faire ce geste, ça montre que pour nous, la justice de Dieu est plus importante que l'argent. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai compris que si je voulais vivre une vie selon la volonté et la justice de Dieu, eh bien je devais respecter ce qui lui appartient, et donc lui rendre ce qui lui appartient. Et c'est là où j'ai été très gêné. Ma vie, mon quotidien, je le gérais avec 100% du fruit de mon travail, de mon salaire. Comment faire pour me passer de 10%? J'avais peur. J'ai hésité. Et il y a même une part de moi qui ne voulait carrément pas. Et ce qui m'a fait le plus peur dans ce moment d'hésitation, c'est de voir qu'au final, ça me montrait que mon cœur était partagé. Il n'était pas totalement attaché à Dieu. Mon cœur comprenait bien ce qui était juste devant Dieu et comprenait pourquoi c'était juste de le faire. Mais il ne voulait pas totalement le faire. Alors j'ai prié. Avec mon épouse, nous nous sommes remis entre les mains de Dieu pour le remercier avant tout de nous offrir 90% de ce qui est à lui. Je ne connais personne qui offre ça. Un cadeau avec des petites parties de ce qui nous appartient. On ne donne pas 90% de ce qui nous appartient, ça n'existe pas. Eh bien, Dieu le fait, alors il faut le remercier. Nous avons prié pour cela et nous avons prié aussi pour lui remettre, pour lui rendre ce qui ne nous appartenait pas. C'est 10% que Dieu se réserve. Ça n'a pas été simple, mais vous savez quoi? Eh bien, je n'ai pas l'impression d'avoir renoncé à quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression d'avoir retrouver la liberté que j'avais perdue. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce dont j'ai envie là maintenant ou ce que ce monde me pousse à faire, mais la vraie liberté, c'est de pouvoir être attaché à Dieu sans partage. Et tout ce qui essaie de m'en empêcher, voilà ce qui essaie de me priver de ma vraie liberté. Deuxième exemple de vie, peut-être plus grave, et qui rejoint le sujet du couple, justement, dont l'apôtre Paul parlait dans notre texte, c'est l'exemple d'une de mes sœurs. Elle croit en Jésus comme son sauveur, elle témoigne de sa foi dans sa vie, elle sert le Seigneur autour d'elle et dans son église locale, elle partage sa foi avec ses 4 enfants, elle vit au quotidien une vraie relation à Dieu, même si, comme pour tout le monde, hein, c'est pas facile tous les jours, Mais il y a une chose qui vient peut-être ternir un peu ce beau tableau, c'est son mari, mon beau-frère, que j'aime énormément, c'est un mec en or, c'est un mec génial, mais il ne partage pas sa foi. Il ne s'y oppose pas. Il ne s'oppose pas non plus à ce que leurs enfants reçoivent un enseignement biblique. Il les laisse aller à l'église le dimanche, mais lui reste à la maison. Et la majorité du temps, tout va bien. Mais parfois, il y a quand même des tensions. Tel soir, mon beau-frère aurait voulu passer la soirée tranquille avec elle, mais elle a prévu de retrouver ses frères ou sœurs pour leur groupe de maison, pour le groupe théâtre auquel elle participe ou autre chose. Il y aurait tous les autres soirs de la semaine pour vivre ses soirées en couple, mais lui le voulait ce soir-là, pas demain. Mais pour elle, pour sa foi, ce temps de partage avec des frères et sœurs est important et ça n'a lieu que toutes les deux semaines. Alors, eh bien, quand ça arrive, elle lui rappelle avec tout l'amour qu'elle a pour lui que sa relation à Dieu et lui consacrer sa vie est vraiment centrale pour elle. Alors, avec tout l'amour qu'il a pour elle, il la laisse aller. Mais ces moments viennent montrer que dans leur couple, ce qu'ils mettent au centre de leur vie est différent. Et c'est pas tous les jours facile à vivre. Ne pas pouvoir partager avec son conjoint ce qui est le plus important pour nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre heureux dans ces conditions. Leur famille vit très heureuse, ma sœur est heureuse, mais ces tensions passagères entre eux viennent mettre cela en évidence. Ces tensions passagères, ma sœur les regrette, mais elle ne les vit pas comme un renoncement. Elle les vit comme ce qui lui permet d'être dans la vraie liberté, c'est-à-dire être attaché à Dieu sans partage. Suivre le désir de son mari pour ces soirées-là, renoncer à ce dont elle a besoin pour sa foi, voilà ce qui serait pour elle, renoncer à sa vraie liberté. Heureusement, mon beau-frère, c'est un mec en or, je vous l'ai dit, il ne l'empêche en rien, c'est vraiment un gars formidable. Mais que se passe-t-il lorsque dans un cadre familial, on vient empêcher l'un ou l'autre de vivre sa foi ? Eh bien, ce sera mon troisième et dernier exemple de vie, le plus grave des trois, celui d'une jeune fille que j'ai rencontrée quand j'étais pasteur à Cannes. C'était à l'époque une jeune fille de 16 ans, elle en a 20 aujourd'hui, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a rencontré le Seigneur de manière fulgurante, de manière merveilleuse, incroyable. Et j'ai eu le bonheur, la joie immense de pouvoir l'accompagner durant les premiers pas de sa foi. Mais sa famille était musulmane et son père s'opposait à la foi chrétienne de sa fille. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, ça l'était. Et non seulement son père, mais tout son entourage s'y opposait fortement et c'est même devenu violemment. Durant la première année de sa relation à Dieu, elle débutait dans la foi. Eh bien, à cause de sa foi, ses parents l'ont privée de tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin à la Bible. Privée, brûlée. Ils l'ont menacée de la mettre à la rue si elle ne renonçait pas à sa foi. Ils l'ont menacée de cesser de lui payer ses études dans un bon lycée dans lequel elle était. Des jeunes de son quartier l'ont tabassée deux fois en un an. Et une de ces fois-là l'a envoyée à l'hôpital pour une semaine. Elle recevait toutes les semaines des menaces de mort par Internet, au point que la police lui a proposé de la mettre sous protection anonyme. Et au final, comme elle ne reniait pas sa foi, lorsqu'elle a eu 18 ans, ses parents l'ont finalement virée de la maison. Et j'aimerais vous lire quelques passages d'une conversation qu'on a eue à distance, elle et moi, il y a quelques temps, sur Messenger, où elle me donnait un peu des nouvelles, j'aime bien prendre de ses nouvelles quand même, depuis notre départ de Cannes. Et elle me disait ceci. Pendant 4 mois, j'ai été sans abri, car mes parents m'ont mise à la porte après s'être aperçu que mon changement de foi n'était pas une crise d'ado. Ils m'ont donné le choix de rester musulmane ou de partir. Je suis partie. Et donc j'étais SDF. Heureusement, j'allais de maison en maison chez des chrétiens qui acceptaient de m'aider, jusqu'au jour où une équipe évangélique a bien voulu m'héberger au Danemark. J'ai fini par faire partie des enseignants de ce groupe après une formation que j'ai reçue et au final je suis même partie de chez eux après que Dieu m'ait mise à cœur de reprendre ma vie en main et maintenant je cumule 2 boulots à Copenhague en attendant le début de mes études en avril. Pendant toute cette période, je me sentais abandonné de tous, et le seul qui était là était Christ. Mon savoir était pauvre dans la foi, mais s'il y a bien une raison pour laquelle j'ai réussi à tout traverser, c'est l'espoir que Jésus m'a donné dans le fait que tout concourt à mon bien. Même si je ne comprends pas tout sur le moment, il travaille pour moi et en moi. Je voyais peut-être pas tout à ce moment-là, car souvent la douleur te fait perdre la vue, et donc aussi la vue sur Dieu. Je voyageais avec une petite valise, avec des habits que je ne pouvais pas laver. J'étais dépourvu de tout confort, sauf celui de connaître Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a tout redonné. Et j'ai l'impression d'avoir grandi sur tellement de plans. Ne pas dépendre d'une assurance d'un toit nous forge énormément la foi, car on apprend. Car on apprend à dépendre de lui. Alors, avec ce témoignage, je ne veux absolument pas minimiser nos défis plus modestes du quotidien. Les conséquences sont incomparables, mais je prends tout autant au sérieux mon défi concernant la dîme, ou le défi de ma sœur dans son couple au quotidien, ou le défi de cette jeune fille vis-à-vis de sa famille. Mais ces trois exemples, c'est peut-être pas les vôtres, mais vous connaîtrez ce qui vous concerne. Ces trois exemples nous parlent de ce que l'apôtre Paul désire au fond de son cœur pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions être attachés au Seigneur sans partage, parce que c'est là que se trouve la vraie liberté. Ça n'a pas été un renoncement pour moi, je vous l'affirme, de me séparer d'une somme d'argent qui prenait la place de Dieu. Ce n'est pas un renoncement pour ma sœur de ne pas être tout le temps en phase avec son mari. Et cette jeune fille ne m'a pas parlé d'avoir dû quitter sa famille comme d'un renoncement. Mais au contraire, elle en parle comme de ce qui lui a donné la vraie joie et la vraie liberté. Car la liberté consiste à pouvoir être attaché à Dieu sans partage. Tout ce qui vient prendre cette place dans notre vie nous prive de notre liberté. Alors, comme le rappelait cette jeune fille, qu'est-ce qui dans votre vie peut bien vous faire perdre Dieu de vue? Ou comme le dit l'apôtre Paul, qu'est-ce qui vous empêche d'être attaché à Dieu sans partage? Pour terminer, je voudrais juste vous renvoyer à ma prédication également d'il y a 2 semaines, sur le passage où Jésus marche sur l'eau. Vous pouvez la réécouter sur notre site web, mais je vous la rappelle brièvement parce que c'est important. Dans ce texte qu'on avait vu il y a 2 semaines, l'apôtre Pierre voulait être auprès du Christ, voulait regarder à lui, être auprès de lui constamment. Et il a demandé à Jésus de l'aider à le rejoindre au milieu de la tempête, alors que ça semblait impossible. Mais il n'a pas pu garder constamment les yeux fixés sur Jésus. Il a eu peur de la tempête. Alors il a eu la meilleure réaction possible et imaginable. Il a regardé son Seigneur et il a crié « Au secours !» Immédiatement, nous dit le texte, Jésus lui a tendu la main et l'a saisi. Aucune d'entre nous n'a en lui la force de vivre attaché au Seigneur sans partage. N'essayez même pas, vous n'y arriverez pas par vous-même. Aucune d'entre nous n'est capable de constamment garder les yeux fixés sur Dieu, de vivre toute notre vie centrée sur lui, consacrée à Dieu. C'est le Seigneur qui donne cette force. C'est lui qui nous permet d'être auprès de lui dans la tempête. C'est lui qui vient à notre secours lorsque nous n'y arrivons plus. Alors s'il y a des choses dans votre vie qui vous privent encore de la liberté d'être pleinement consacré à Dieu, si c'est difficile pour vous de rester attaché au Seigneur sans partage dans tous les domaines, eh bien faites comme l'apôtre Pierre. appelez Dieu à l'aide. Il vous saisira par la main pour vous ramener à nouveau à lui.